Parents et amis.
Parents et amis.
Voici Sarah.
Voici Sarah.
Sarah Ursula Terrien.
Ursula Terrien.
Un nouveau thème.
Ben
j'aime
oui.
ça, les thèmes.
C'est
comme un enfant d'une garderie.
D'ailleurs,
de garde.
Ah, mais il faut garder notre cœur d'enfant.
Ouais, le cœur d'enfant, hein, Dan?
D'ailleurs, manquez pas le deep demain où vous allez voir que dans Moralève, on fait des parlons de beaucoup de choses.
Oui?
Oui.
OK, parfait. Ben parlons école, parlons au gouvernement. Le gouvernement qui, là, tu nous annonces ça en exclusivité. Décide de ne plus avoir recours aux cliniques privées, comme les tiennes, comme la tienne et comme tant d'autres. Comme toi, tu as ta clinique, bien sûr, mais il y en a beaucoup de cliniques comme ça au Québec, là.
Absolument. Fait qu'écoute, je vous mets en contexte là, pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui se passe exactement, parce que effectivement, c'est une information que, à moins de travailler dans les écoles ou dans mon domaine, les gens ne sont pas au courant, OK? Puis c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, on se rappelle tous... Loi 25, qu'est-ce que c'est? La modernisation de la protection des données confidentielles. Hein? C'est quelque chose qui a débuté autour de 2021 au Québec, qui a fini d'être mis en place là, autour de 2024. Donc, 2025, c'était vraiment la première année que, mur à mur, un peu partout, on doit respecter les nouvelles lignes directrices. On s'entend que sur papier, c'est positif, l'intention est bonne. On veut protéger les données confidentielles des gens. Fantastique. Cependant, dans les écoles, ça peut amener certains enjeux, étant donné que tout dépend de l'interprétation qui en est faite. Et là, l'interprétation actuelle qui en est faite, on repart du principe de ben, s'il y a un risque, il faut absolument le contrôler, on ne veut absolument pas de dérapage. Donc on veut
c'est le risque zéro.
La politique du risque zéro, exactement. Et ça vient avec toute la tendance qu'on observe dans les derniers mois de rigidité idéologique, administrative et culturelle. Donc, présentement, les cliniques privées, nous qui avons toujours été des alliés, surtout dans un contexte où il y a une pénurie de ressources et on a énormément de jeunes qui ont des besoins, alors on a toujours été là pour soutenir les écoles et travailler en collaboration avec eux, bien désormais, il y a plusieurs écoles, malheureusement, qui nous ferment la porte par peur de contrevenir aux directives ministérielles en lien avec cette fameuse protection-là des données. Ça, c'est ma mise en contexte. Donc, ce que ça signifie, c'est que actuellement, ils acceptent encore certains professionnels qui proviennent du réseau public, comme, mettons, des intervenants de la DPJ, du CIUS, etc. Pourquoi? Parce qu'ils relèvent sensiblement des mêmes instances ministérielles. Fait qu'ils considèrent que le
risque syndiqué
est à l'intérieur d'une même gouvernance, là, on va dire. Donc, ils considèrent que, eux, c'est sécuritaire. Mais c'est très, très mal interpréter les choses. Parce que nous, là, au privé, mettons, on prend les gens dans mon domaine, psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, orthophonistes.
Et il y en manque, donc il faut aller au privé.
Il y en manque. Puis nous, là, on est régis par des ordres professionnels.
Tout à fait.
Ordres professionnels qui ont comme mandat numéro un la protection du public.
Ben oui.
On est régis par des codes d'éthique et de déontologie qui peuvent mener à des sanctions super sévères si on ne respecte pas une ligne directrice.
Dis-le avec des mineurs, là. Il n'y a pas de niaisage à faire là.
Puis tu sais, la ligne directrice, c'est le secret professionnel, la protection des informations personnelles des gens. Donc, bien évidemment que nous aussi, on est tenus par exactement les mêmes réglementations.
Donc, est-ce à dire qu'il pourrait y avoir peut-être des pressions des syndicats? Tu n'es pas syndiqué?
Je ne suis pas certaine que c'est ça.
On va faire travailler notre monde, non?
Je ne suis pas... Bien, c'est sûr que... Oui, il y a quand même un petit peu...
Mais la guerre au privé, c'est un peu ça, là.
Oui, il y a peut-être ça quand même. Je suis pas certaine exactement des motivations. Tu sais, je t'avouerais, nous, c'est vraiment depuis la rentrée en septembre, c'est la première année qu'on vit ça, que dépendamment. Il y a certaines écoles pour lesquelles on réussit encore à avoir des collaborations. Surtout les milieux où on nous dit tenir de façon prioritaire au bien-être de l'élève en difficulté qui a besoin de ressources et ils acceptent de collaborer avec nous, bien évidemment, en respectant tous ces principes-là de confidentialité. Cependant, parfois, on reçoit des refus et généralement, c'est toujours des messages des directions d'école qui nous disent que malheureusement, en vertu de cette fameuse nouvelle loi 25 et de la façon dont ils interprètent le projet de loi, eux n'acceptent pas notre présence parce qu'ils nous perçoivent, j'ai envie de dire...
Comme
une menace à la confidentialité.
C'est complètement fou.
Donc,
c'est complètement fou.
Ben,
c'est comme si vous étiez des... des amateurs, dans le fond. C'est un manque de respect total. Et c'est de ne pas comprendre votre rôle. Tu l'as dit, vous êtes régi par des ordres. Vous respectez, comme un médecin, comme un avocat, vous respectez le secret professionnel. Voyons donc.
À 100 %. Puis, tu sais, tu vois, moi, je le prends même pas tant problématique par rapport à moi ou à n'importe qui d'autre, mais c'est pour l'élève, parce qu'ils ont mis aucun filet de sécurité en place. Donc, c'est pas parce que cette loi-là est appliquée de cette façon-là et qu'ils refusent désormais que les cliniques privées travaillent en collaboration avec les écoles que il y a un filet de sécurité. Donc, ça ne garantit aucunement qu'un élève qui a de très grands besoins au niveau... on va résumer ça par tout ce qui est psychosocial.
OTS, mettons, peu importe, TDAH.
Même en situation de crise, avec de grands besoins, ben ça ne garantit absolument pas qu'il a accès à des services au public. Donc, dans certains cas, on pourrait même dire ben on choisit pratiquement que l'élève n'ait pas de service.
Ouais,
même
l'enfant passe deuxième.
Mais là, la question qu'on doit se poser... Premièrement, est-ce qu'on veut gérer les écoles comme des compagnies d'assurance ou comme des milieux de vie qui soutiennent le développement de l'enfant? Première question. Deuxième question, c'est qui est prioritaire? Est-ce que c'est l'enfant? Ou est-ce que c'est les règles institutionnelles qui protègent cette fameuse politique du risque zéro qui va beaucoup en lien avec justement là, tout ce qu'on a vu dans les derniers mois? Là.
Je vais t'entendre
les buts de neige.
Buts de neige. Risque zéro. La chronique de ce matin... de Martineau, je peux pas passer à côté. Il y a une école qui interdit maintenant l'usage en maternelle. On fait du bricolage avec un peu n'importe quoi. Les rouleaux de papier de toilette puis les affaires d'œufs, là, les boîtes d'œufs. Là. C'est interdit.
En fait, c'est
désormais.
La santé publique à Ottawa qui demande en Ontario d'interdire, ben en fait, puis au Canada, là, d'interdire les emballages d'œufs puis les rouleaux de papier de toilette.
Ça pourrait être contaminé.
Exactement.
Ben, je vous garantis que dans les garderies aussi, des fois, ils nous demandent même de rapporter justement là, des petits trucs, des étiquettes de pain, des boîtes d'œufs, des rouleaux de papier de toilette. On apporte ça régulièrement à la garderie.
Pour qu'ils jouent avec.
Pour qu'ils puissent faire des projets de bricolage avec
ça. Mais c'est risque zéro, c'est fini, ça.
Mais c'est tellement mal comprendre le développement de l'enfant. Puis tu sais, honnêtement, je pense que 2026, ça va être mon cheval de bataille.
L'année du risque zéro.
Mais c'est tellement mal comprendre le développement de l'enfant. Les enfants ont besoin de cette fameuse prise de risque contrôlée-là.
Les microbes sont dans les garderies, déjà.
Mais ça, par définition, tous les enfants dans leur vie vont attraper des virus, des bactéries, des microbes. Ça va arriver des
fois qu'ils vont être malades. La garderie, il y en a des microbes?
Ah mon Dieu, on est bien placés pour le savoir.
On se fait bombarder comme parents.
Donc,
on est immunisés.
Oui. Puis, voilà. Au-delà de ça, dans les jeux, la prise de risque est nécessaire. C'est comme ça que l'enfant va développer une confiance en lui, ne va pas croire. Parce que si on est toujours en train de tout contrôler, le moindre petit paramètre de leur jeu, sans exception, bien, qu'est-ce qu'un enfant se dit par définition? Quelque chose qui va ressembler à, bien là, mon Dieu, s'il contrôle mon environnement de même, c'est que mon environnement est dangereux. Donc, qu'est-ce que ça provoque? Une tendance à devenir plus stressé, plus anxieux, à avoir davantage de craintes qui peuvent être totalement irrationnelles.
Comme l'histoire des buts de neige. Vas-y pas, trop à pic. Tu vas tomber, tu vas te casser les dents, tu vas te casser le nez.
Mais tout ça, c'est réellement en lien avec... Bon, premièrement, il y a quelques parents, moi je pense vraiment pas que c'est la norme ni la majorité, mais quelques parents qui peuvent mettre de la pression sur les écoles pour... le fameux risque zéro, d'une part.
Ça, c'est vrai.
D'autre part, il y a énormément de complications déjà... avec les compagnies d'assurance.
Puis j'étais au secondaire, là, ça n'a rien à voir avec le primaire, là, mais j'ai déjà assisté à des rencontres du comité de parents parce que j'étais dans le conseil étudiant quand j'étais en secondaire 5. Là. Puis je vous le dis, là, les parents sont too much. En fait, un conseil de parents dans une école secondaire, là, ça empêche l'école d'évoluer.
Ben tout simplement. Oui. Ben oui. Les parents d'une école secondaire, mes parents, t'as-tu pas là? Les parents sont jamais mêlés de secondaire.
Hey, ça se mêlait de ce qu'ils vendaient à la cafétéria.
Jamais. Ben voyons
tout,
donc.
Tout.
Oui, là, on tombe dans l'alimentation. Les bâtons. Hein, ouais. Y'a-tu du sucre? Trop de sucre, trop de ci, trop de ça. Aïe.
Fait que si je peux me permettre, parce que là, je me doute qu'on est vers la fin de notre temps.
Il nous reste 4-5 minutes.
Ah, OK, c'est bon. On n'est pas si pire. Fait que
c'est,
mettons qu'on fait une petite parenthèse sur le vouvoiement également.
Moi, je vais t'entendre là-dessus, parce que ça a commencé comme ça l'année, puis t'as pas parlé là-dessus encore. T'es-tu d'accord avec ça?
Ben,
vous, êtes-vous... Tu, vous, non?
Ben, écoute, non. Puis je t'explique pourquoi.
Oui, vas-y.
C'est que une règle linguistique peut, en apparence, donner l'air qu'un enfant est obéissant et respecte les règles. Cependant, il faut se rappeler que le respect, c'est pas comme ça que ça s'instaure. Le respect, ça s'instaure avec la qualité du lien relationnel entre l'enfant et l'adulte, principalement. Ça va s'instaurer aussi quand il y a une cohérence dans les actions de la part justement de l'adulte qui va intervenir avec lui. Mais c'est pas nécessairement la règle linguistique qui va complètement changer les choses.
Puis l'application. Hey, tu m'as pas, vous voyez, suspendu. Tu sais, comment tu fais pour appliquer une règle comme ça? Et tu peux très bien dire, vous, madame, là, allez chier.
Oui.
Bon, mais c'est ça pareil, hein? Avec tout le vouvoiement nécessaire.
Madame, t'as rien mangé de la merde.
Je vous invite à aller vous faire cuire un œuf.
C'est ça.
Ça pourrait effectivement arriver.
On déconne, mais c'est ça pareil, là.
Ça pourrait arriver. 16 ans, on en dit des niaiseries. Puis tu sais, je pense que ça rend quand même plusieurs jeunes confus. Là, je lisais un petit peu les témoignages, justement, cette semaine qui étaient sortis dans un journal. Puis, il y avait des jeunes qui, en revenant à la maison, vous voyaient leurs parents en disant « Ben là, je suis comme pas sûre de comprendre. Faut-tu que je te vouvoie, toi aussi? » Fait qu'il y en avait plusieurs qui étaient pas certains. D'autres fois, il y avait des parents qui leur demandaient « Puis, le vouvoiement, comment tu trouves ça? » Puis là, les enfants faisaient juste les regarder avec des points d'interrogation dans les yeux comme « C'est quoi ça, le vouvoiement? » Je suis pas certaine que c'est appliqué de façon uniforme actuellement.
C'est du niaisage de Bernie, ça.
Mais c'est qu'il y a tellement
Bernard,
des cibles plus importantes que ça. Il y a des besoins tellement plus grands que ça en éducation. Il me semble qu'on cible pas nécessairement les bonnes choses. Donc, c'est un peu mon opinion sur la chose. Puis sinon, mon mot de la fin. Faut se rappeler, dans ma profession, notamment en psychoéducation, notre mentalité, c'est de travailler avec l'approche qu'on appelle écosystémique, c'est-à-dire de travailler, oui, avec la personne, mais avec tous ses environnements de vie. Hein? Donc, la famille, l'école, s'il y a un lieu de travail, s'il y a une garderie, peu importe, des services communautaires. Donc, on veut travailler avec toutes les personnes qu'il peut y avoir autour de lui, tous les milieux qui ont une influence sur lui.
Les stresseurs potentiels aussi.
Ou les facteurs de protection.
Oui.
Fait que facteur de risque, facteur de protection. Puis l'école, on s'entend-tu que c'est le probablement, à part la famille, c'est le milieu de vie le plus important d'un jeune. Donc, si on nous coupe cet accès-là, on passe à côté d'une partie super importante de notre travail. Fait que c'est pour ça aussi que je voulais absolument parler de ce sujet-là ce matin.
Merci beaucoup.
Ça fait vraiment plaisir.
Ça va être une belle année.
Ben oui.
Je suis optimiste.
Ouais, belle année. Beaucoup d'histoires à commenter, c'est sûr. Hey, merci encore.
Ça fait
plaisir. Bon retour à la clinique. Et ta clinique, c'est?
Le chemin de la résilience à Charlebourg, donc clinique psychosociale qui offre plusieurs services pour autant les enfants, les ados, les adultes, les familles. N'hésitez pas à nous contacter. On est facile à trouver sur Google. Clinique Le chemin de la résilience.
Merci beaucoup.